Et nous poursuivons avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils seront taxés à hauteur de 10% la semaine prochaine, puis à 25% d'ici la fin de l'année. 200 milliards de dollars de produits chinois coûteront plus cher à leur entrée aux États-Unis. Donald Trump l'annonce, la Chine enrage, vous l'entendrez.
Nous rejoindrons ensuite notre correspondant à Séoul. Les dirigeants des deux Corées se rencontrent pour la troisième fois en 6 mois et Moon Jae-in entend convaincre son voisin du Nord de dénucléariser vraiment la péninsule.
400 millions d'euros en plus chaque année pour la santé des Français. Hôpitaux, médecins, étudiants, tous seront concernés par le plan annoncé ce matin par le président. Les zones rurales sont particulièrement visées. Nous avons visité un hôpital de proximité dans l'Oise. Reportage à suivre.
Et puis Gérard Collomb sera candidat au municipal à Lyon en 2020. Le ministre de l'Intérieur veut donc quitter son poste au gouvernement en juin prochain.
L'art de claquer la porte pour créer un électrochoc, ce n'est pas le cas de Gérard Collomb, mais Bruno Julliard, Frédéric Dumas et Nicolas Hulot l'ont fait ces dernières semaines. Analyse de Frédéric dans son billet politique après ce journal. Mais d'abord, cette mise en scène. Depuis l'usine de fusées de l'entreprise américaine SpaceX, cette nuit dans l'agglomération de Los Angeles, le patron de SpaceX, Elon Musk, a dévoilé le nom du premier touriste qui devrait orbiter autour de la Lune, tourner autour dans quelques années. Il s'agit d'un milliardaire japonais de 42 ans, Loïc Loury.
Il est arrivé sous les applaudissements des journalistes. Yuzaku Maezawa rêve de la Lune depuis qu'il est tout petit. Aujourd'hui, cet entrepreneur et collectionneur d'art a son billet en poche.
Enfin, je peux le dire, j'ai décidé de voyager jusqu'à la Lune.
Si le prix du voyage n'est pas connu, son objectif, lui, commence à l'être. Le milliardaire, en effet, compte inviter une poignée d'artistes avec lui en 2023, qu'ils soient peintres, musiciens ou photographes.
Je souhaite vraiment que de tels artistes puissent voyager dans l'espace, voir la Lune de près et créer des œuvres d'art qui reflètent une telle expérience.
Le projet baptisé Dear Moon, chère Lune, peut faire sourire, mais le développement de la Big Falcon Rocket devrait engloutir des milliards de dollars ces prochaines années. Elon Musk, le patron de SpaceX, règle ses comptes.
Combien de personnes avaient prédit en 2008 que SpaceX ferait toutes ces choses avant 2018 ? Zéro, absolument personne. Je ne connais personne qui ait fait cette prédiction, moi y compris.
De quoi mettre la pression sur des concurrents de plus en plus nombreux à vouloir envoyer des touristes dans l'espace.
Et ce tour de la Lune est prévu pour 2023, si tout se passe bien. Yuzaku Maezawa et ses invités seront les premiers humains à faire le tour de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972. Seuls 24 Américains, des hommes blancs, l'ont fait. 12 d'entre eux avaient marché sur la Lune. Là aussi, on jongle avec les milliards, non pas pour viser la Lune, mais pour faire mal aux concurrents. La moitié des produits chinois importés aux États-Unis seront bientôt taxés. Donald Trump l'a annoncé cette nuit. Cette taxation concernera à partir de la semaine prochaine non plus 50, mais 200 milliards de dollars d'importations, à hauteur de 10% dans un premier temps, puis 25% en fin d'année. Aux yeux de Donald Trump, Pékin n'a pas fait assez de concessions pour ouvrir ses marchés et le président américain défie la Chine de riposter, se croyant en position de force, Pierre-Yves Dugas.
En prenant le risque de faire capoter une reprise imminente des négociations avec Pékin, Donald Trump défie non seulement la Chine, annonce des droits de douane portant sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés, il nargue. En outre, les milieux d'affaires qui sont opposés à cette approche, à leurs yeux contre-productive et pénalisante pour les consommateurs américains. Mais en faisant passer la liste de produits surtaxés de 50 à 200 milliards, en prévoyant que la surtaxe passe de 10 à 25% d'ici la fin de l'année, Donald Trump est convaincu qu'il va contraindre Pékin à engager des discussions sérieuses sur l'ouverture des marchés chinois. La Maison-Blanche considère aussi qu'à court terme, les États-Unis peuvent supporter des hausses de prix de produits chinois, car la conjoncture américaine est forte, tandis que la Chine aurait beaucoup plus à perdre vu sa dépendance à l'égard du marché américain. Les mesures annoncées par la Maison-Blanche n'en sont pas moins provocantes, puisqu'une autre liste de 267 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires est en préparation si Pékin venait à riposter.
Alors, le gouvernement chinois, justement, devait se réunir ce matin pour décider d'une réponse à donner à Washington. Notre correspondante en Chine, Dominique André, est au Forum économique de Pékin à Tianjin ce matin, le Davos chinois. Et elle a rencontré des patrons chinois après l'annonce de Donald Trump.
Aujourd'hui, c'est vraiment le début de la guerre commerciale, commente un patron chinois, pas surpris de l'annonce de l'administration américaine. On savait que Donald Trump irait au bout. Michel Li, qui représente le groupe financier chinois AMTP, s'attend à une réaction forte du gouvernement chinois.
Oh, definitely yes. That's real, yeah.
Oui, je le crois vraiment. C'est sûr, on le ressent sur le terrain. Le gouvernement chinois a eu jusqu'à maintenant une position forte, mais je pense que le gouvernement est aussi ouvert à de futures négociations avec le gouvernement américain.
Mais la Chine a-t-elle le choix? Elle est obligée de discuter, estime le professeur Ding Yuan, vice-président de CIBS, prestigieuse école de business. Il intervient aujourd'hui au forum de Tianjin.
Pour le gouvernement chinois, ils ont aussi un peu le dos sur le mur. Donc il n'y a pas très peu de place de manœuvre parce qu'en Chine, c'est aussi, il y a de la tension de l'opinion publique sur la croissance des doutes. Vous pouvez constater aussi sur le marché des capitaux. Donc le gouvernement devrait être très très ferme, ça c'est ce que je pense.
Le gouvernement chinois convoque aujourd'hui une réunion d'urgence pour décider de la réponse à la décision américaine. Ce climat chaotique inquiète les patrons qui craignent une nouvelle montée du protectionnisme.
La guerre commerciale est donc largement déclarée. Quant à quelques centaines de kilomètres de là, deux pays se réconcilient en ce moment. Le très attendu sommet intercoréen à Pyongyang a débuté ce matin. Le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé en Corée du Nord, tout sourire. Il va y rester 3 jours et s'entretenir avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Leader à qui il a déjà donné 3 accolades ce matin devant une foule de nord-coréens, drapeaux à la main, fleurs dans les bras, dans la capitale nord-coréenne. Il faut dire que les deux dirigeants se rencontrent pour la 3e fois en moins de 6 mois. C'est inédit. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Séoul. Frédéric, de quoi les deux hommes vont-ils parler ?
Eh bien, le président sud-coréen veut d'abord améliorer les relations nord-sud, notamment sur le plan économique. Et pour cela, il a besoin de la levée des sanctions internationales. Moon Jae-in veut donc jouer le rôle de médiateur entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump pour relancer les pourparlers de dénucléarisation qui sont aujourd'hui dans l'impasse. Moon Jae-in doit convaincre Kim Jong-un de faire suffisamment de concessions, notamment en fournissant un inventaire complet de son arsenal nucléaire pour que Donald Trump accepte en échange de déclarer formellement la fin de la guerre de Corée. Le président sud-coréen espère aussi trouver un accord pour réduire les risques d'escalade militaire en cas d'accrochage sur la frontière. Après un premier sommet en avril, très chargé en symboles, ce sont à présent des mesures concrètes que Séoul cherche à obtenir.
Et pour cela, Frédéric, Moon Jae-in est accompagné de nombreux chefs d'entreprises sud-coréennes.
Oui, ce sont les chefs des plus grands conglomérats sud-coréens qui sont montés dans l'avion de Moon Jae-in, les patrons de LG et Hyundai, l'héritier du géant Samsung. En raison des sanctions en place, il est impossible pour ces entreprises de s'implanter au nord. Leur présence est en fait un signal fort envoyé au régime. Si Kim Jong-un fait assez de concessions nucléaires pour permettre de lever les sanctions, alors la Corée du Sud pourra investir massivement et ainsi participer à la relance de l'économie nord-coréenne.
Merci Frédéric Ojardias à Séoul ce matin pour France Culture. Le ministère russe de la Défense annonce que l'un de ses avions militaires avec 14 personnes à bord a disparu des écrans radars au-dessus de la Syrie ce matin. Il précise que les forces israéliennes et françaises menaient au même moment des frappes aériennes contre des objectifs en Syrie. Washington affirme de son côté que cet avion a été abattu par erreur par les forces syriennes alliées de Moscou. Moscou et Ankara qui discutaient justement hier de la Syrie et du sort de la province d'Idlib. Russes et Turcs se sont mis d'accord pour la création d'une zone démilitarisée de 15 à 20 km de large, et ce à proximité de la zone où sont réfugiés plus de 3 millions de civils et quelques milliers de djihadistes à Idlib.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 8h09, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Gérard Collomb envisage de quitter le gouvernement en juin prochain.
Oui, le ministre de l'Intérieur l'explique dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Express. Il quitterait son poste après les européennes, pour être ensuite candidat en 2020 au municipal de Lyon ainsi qu'à la métropole. Si d'ici là, on ne lui a pas diagnostiqué de maladie grave, dit-il en riant aux journalistes. À partir d'une certaine période, il vaut mieux être totalement disponible pour la campagne des municipales, explique surtout Gérard Collomb, numéro 2 du gouvernement actuellement, ministre d'État. Ce fidèle parmi les fidèles du chef de l'État avait dirigé pendant 16 ans la municipalité lyonnaise, avant d'être nommé l'année dernière au poste stratégique de ministre de l'Intérieur par Emmanuel Macron. Après le plan pauvreté la semaine dernière, le président poursuit son volet social. Il doit annoncer ce matin la réforme du système de santé et une rallonge de 400 millions d'euros par an jusqu'en 2022. Un budget supplémentaire qui servira entre autres à embaucher 4000 assistants médicaux dont le rôle exact reste à définir. Les médecins généralistes seront aussi incités à aller travailler dans les déserts médicaux. Le gouvernement financera le salaire de 400 entre eux, car ce sont ces zones, ces déserts médicaux qui sont l'une des priorités du gouvernement. Il souhaite favoriser les hôpitaux de proximité dans lesquels pourraient être données des consultations de médecine générale. Et c'est exactement le tournant qu'a pris un hôpital, celui de Chaumont en Vexin dans l'Oise, un hôpital qui pourtant aurait pu disparaître. Anne-Laure Chouin a rencontré certains des professionnels qui y travaillent.
Combien on a fait de passages ce matin, Isabelle ?
Ce matin, à midi et demi, 38.
38.
C'est ça, docteur, hein ?
38 personnes en une matinée venues de Chaumont et d'ailleurs une zone de l'Oise, pourtant considérée comme un désert médical. Le docteur Jaffar y pratique quelques jours par semaine.
Ce sont des personnes ou qui n'ont pas le médecin traitant, ou quand ils ont un médecin traitant, ils téléphonent pour aller le voir et ça ne peut pas attendre. C'est urgent, c'est dans la journée. Donc nous, on prend tout le monde, pas de rendez-vous, 9h à 18h. Et selon, par exemple, le degré de l'urgence.
L'hôpital Bertineau-Juel, 120 lits, dont la plupart sont occupés par des personnes âgées, a vu son activité exploser après que les élus de la région ont décidé de le convertir en hôpital de proximité. La directrice Christine Louchet.
Les trois missions principales d'un hôpital de proximité, elles sont claires. C'est développer les soins de premier recours avec les consultations de médecine générale et soins de proximité, les 13 000 passages qu'on a par an. C'est développer les consultations spécialisées. On a la chance d'avoir des médecins spécialistes qui viennent en journée complète ou en demi-journée la semaine. Et la troisième mission d'un hôpital de proximité, c'est développer la télémédecine.
Un service public de qualité, sans budget supplémentaire pourtant, alors que l'hôpital de Chaumont-en-Vexin arrive jusqu'à présent à maintenir son budget à l'équilibre, c'est assez rare pour être noté.
L'agence régionale de santé a dit, Madame Louchet, vous êtes à l'équilibre, donc vous ne serez pas forcément aidé. Je veux dire, on a 100 000 euros de notre agence régionale de santé. Ok, c'est bien d'aider ceux qui sont aussi en difficulté, mais il faut des fois aussi encourager les bons élèves. Et ça, je le dis et je le revendique haut et fort.
Un établissement à taille humaine, moins marqué qu'ailleurs par l'absentéisme ou le turnover des personnels. Mais comme partout, la fatigue des personnels se fait sentir. Colette Wolf, infirmière et déléguée du personnel.
On est à l'intersection de trois départements, le 95, le 27 et le 60. Donc on touche une population rurale. Si on n'est pas là, ils font comment ? Et bien sûr qu'il va falloir que le gouvernement nous aide, parce qu'on n'y arrivera pas. Et on ne peut plus, on n'a plus de la trésorerie passée dans le bâtiment, on n'a plus pour le personnel. Maintenant, il va falloir qu'on soit aidé au niveau du recrutement du personnel.
Une équipe hospitalière qui estime par ailleurs qu'il est de la responsabilité des jeunes médecins sortis d'études de venir accomplir leur serment d'Hippocrate dans ces zones de France où la population a besoin d'eux.
Les jeunes encore, dans cette réforme du système de santé à venir, pendant les études de médecine, le numerus clausus sera supprimé. Ce système limite jusque-là le nombre d'étudiants admis en deuxième année d'études de médecine. Et puis, autre mesure envisagée dans ce plan santé, l'expérimentation d'un forfait pour les patients aux pathologies chroniques, les patients diabétiques notamment. Les députés se penchent depuis hier après-midi sur le projet de loi sur la fraude fiscale à l'Assemblée. Ils ont finalement voté dans la soirée des dérogations aux obligations déclaratives pour certaines plateformes collaboratives du type Blablacar ou Le Bon Coin. Les revenus réalisés par les utilisateurs ne seront plus obligatoirement déclarés. Le texte prévoit par ailleurs de garder les effectifs pour le contrôle fiscal, les contrôleurs. Et c'est une erreur de ne pas augmenter leur nombre, selon Vincent Drezet, l'un des porte-parole du syndicat Solidaire Finances Publiques.
certains moyens juridiques qui sont proposés peuvent être intéressants. Reste qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Le gouvernement ne veut pas l'entendre, mais c'est une réalité. Il y a de moins en moins de contrôles fiscaux. Il y a une chute de ce qu'on appelle le taux de couverture des tissus fiscaux. En clair, il y a de plus en plus d'entreprises et de moins en moins de contrôles fiscaux. Et ça, ça résulte notamment des restructurations et des suppressions d'emplois. Et tant qu'on n'aura pas regardé ça en face, mais malheureusement, on restera à l'exercice de vœux pieux.
On va vous répondre, oui, mais chaque contrôleur est beaucoup plus efficace. Hein.
Le discours de Bercy est que le contrôle fiscal est très important, que le nombre de vérificateurs reste globalement inchangé, ce qui est vrai, mais il oublie qu'il n'y a pas que les vérificateurs dans le contrôle fiscal, il y a d'autres agents qui font la programmation, qui font du contrôle sur pièce, parfois même sur place, et que sont de moins en moins nombreux. Alors évidemment, si demain on réduit encore, ben on aura une productivité exemplaire, mais il faut renverser les choses. S'il y avait un renforcement des effectifs de contrôle fiscal, il y aurait plus de fraudes détectées, il y aurait plus de recettes pour l'État et moins de fraudes. C'est bien vers ça qu'il faut se diriger, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la fraude fiscale, elle est coûteuse, elle fausse l'activité économique et elle affaiblit le consentement à l'impôt.
Vincent Drezet du syndicat solidaire Finances Publiques avec Marie Viennot. De nombreux nuages seront présents ce mardi sur le territoire, entrecoupés d'éclaircies, entrecoupés d'orages aussi près de l'Aquitaine et puis sur tout le nord-est dans l'après-midi. Côté température, comptez ce matin 18 degrés à Brest, 22 à Paris, Lille, Bordeaux, 23 à Strasbourg, 24 à Lille et 27 déjà à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.